Bonjour et bienvenue à Portrait Vivant, l'émission radio qui esquisse un tableau en mouvement de la communauté artistique de l'École d'art de Sutton. Ensemble, allons à la rencontre des artistes, des jeunes créateurs et des œuvres qui façonnent cette institution incontournable du paysage culturel de l'Estrie. Je m'appelle Ayona, artiste en art visuel. Mon parcours m'a menée aux quatre coins du monde, guidée par une quête d'apprentissage et de rencontres. J'ai fini par m'installer ici, en Estrie, où je découvre une véritable boîte au trésor de personnes engagées, passionnées par leur travail, avec des valeurs d'entraide et de coopération. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de la laiterie Daisy et sa transformation en centre artistique pour enfants et adultes. Il fut un temps où, au cœur de Sutton, une entreprise emblématique s'imposait dans le paysage, la laiterie Daisy. Ses murs résonnaient du va-et-vient des producteurs de lait, des discussions animées des travailleurs et du rythme mécanique des machines, transformant le lait en beurre et en crème. Aujourd'hui, ce lieu emblématique connaît une seconde vie. Il est devenu un espace culturel, un centre d'expression artistique et de création. Mais comment cette transition s'est-elle faite? Quels souvenirs du passé persistent entre ces murs? Et quel avenir se dessine pour ce lieu porteur d'histoire? Pour comprendre cette métamorphose, nous devons remonter le temps et découvrir l'histoire de la laiterie, en découvrant l'univers de ceux qui l'ont dirigé et fait prospérer. L'histoire de la laiterie commence à la fin du 19e siècle, une époque où la production laitière est un moteur économique essentiel pour la région. Parmi ceux qui ont laissé leur empreinte sur cette entreprise, on trouve Frank Nelson Carr, un homme de terrain, passionné par son travail et déterminé à développer l'activité de la laiterie. D'abord employé, il devient actionnaire avant d'en prendre les rênes, insufflant à l'entreprise une dynamique nouvelle. Sa descendante Melanie Davidson, résidente de Sutton, est sur les ondes pour nous parler de son arrière-grand-père.
Hi, my name is Melanie Davidson, and I'm very happy to be here to talk about some history in Sutton.
Thank you, and welcome to our show. So great to have you on the show today about the history of the creamery, especially because you have a family connection to the building.
Yes, I do, actually. My great-grandfather, Frank Nelson Carr, ran the creamery, and then my grandfather, his son, Cecil Carr, worked at the creamery for the Boulanger family as well when they purchased it from my great-grandfather. My great-grandfather, his family were farmers, and when his father sold the farm, he worked for a man making cheese, and I guess that was probably his start. When he got hired to work at the Daisy Creamery, it was the best thing for him to do. He started studying how to do different products, not just cheese. He started studying to do butter and stuff like that. And then I think it was only two men, they just said, you know, you should try to get together with some businessmen. We're getting old and we'd like to sell the creamery. We don't want it to just close up and die. It's a pretty integral part of Sutton. So my great-grandfather, Frank Nelson Carr, along with the help from the two original owners, put together a group of I think it was 5 or 6 people, and they all put in some money and purchased the creamery for, I think it was $3,000. So then my great-grandfather was asked to be manager, and he did very well. He managed to bring it up to a very prosperous company through the years.
How do you think it affected the town of Sutton to have such a large company right in the heart of it?
Well, I think it was huge. I think it's like, in perspective, maybe like what Mount Sutton is to Sutton today. I mean, it's a huge, that's a huge tourism industry, whereas the creamery was a huge food industry. And they were able to supply all of the local stores, first of all. They were able to sell to stores in West Brome, Knowlton, Sutton Junction. They sent things to Montreal. They sent things by train to Boston. So it was a pretty big affair. And not only that part of it, but purchasing all of the milk and cream from local farmers, keeping families working, and it's just a whole circle, you know. The supply and demand was there, and because of the Daisy Creamery, it was able to keep a lot of families afloat because money was a commodity. I mean, people were not paid big salaries, and so this was huge. Families had a hard time, so if there hadn't have been any creamery, where would the farmers have been able to sell their produce, you know, their milk? How would they have done that? Well, they would have had to physically go out and find a place that would purchase everything. So this was just like one core unit that was able to take care of all of that. So yeah, we've got a deep-rooted history here in Sutton. And I think it's very important for people to know that the Main Street was built by so many very good businessmen and women in the town of Sutton. And it is what it is today because of it.
And speaking of Cecil Carr, I think you wrote an article writing about his experience working in the creamery. Do you want to read an excerpt to us?
Cecil always worked hard. When he was young, he worked for the creamery. A stock story was him explaining how they harvested ice for the summer months. They dammed a stream and created a pond not far from the creamery. When the ice was thick enough to cut or to harvest, the pond's ice in January reached 18 inches thick, and the workers would cut it, the ice, into 400-pound blocks. They would then release some of the dammed water into the brook, and it would run down behind the creamery. The horses dragged the blocks downstream to the ice house. The blocks were moved using long ice picks and were insulated in sawdust until needed in the summer months. Around 1925, 16-year-old Cecil started driving to gather cream from surrounding farms. It was difficult work in the early spring because of the muddy roads, but it got better as the spring turned to summer. Some of these travels would take hours, whereas now school buses are doing it in no time at all.
Thank you so much. That was so interesting.
Another fun fact is that Frank Nelson Carr sold the business to the Boulanger family in 1947, in the spring of 1947, but he died in September 1947. Mm-hmm. So he really didn't get much of a retirement, and he died before actually being able to see television.
He contributed so much to the lives of so many people. That's a really amazing heritage.
Yeah, he really did. And he was, I would say, courageous at that time, you know, where money was sparse and you would have to invest. And, you know, they tried to invest in making sweet cream for ice cream, because in the United States, ice cream, I guess, was getting popular. Mm-hmm. And so he was like, okay, let's try it. So trial and error, they would just try to make this sweet cream that could be sold to the Americans. But that only lasted like maybe 2 or 3 years, because either it was just not thriving enough for him, maybe too much work to get into it. So then it was just like, okay, well, we tried it, didn't work. So now let's do something else, you know? And everything just takes so much more effort and more time, you know, back then, and so much more calculating and figuring. And like you say, no electricity, and things are run by steam. No, I just find it very fascinating. You know, we can just go to any IGA or any dépanneur and get butter and milk and not even think about it.
Many people don't realize the complex processes that bring them their food as well.
Some of us don't even look at the price tag on things, you know, like we'll buy milk or cream or whatever, or butter, and, you know, and oh, well, I need to bake, so it's not on sale, but oh, well, I'm going to get it. Whereas that wouldn't have happened, you know, 50 years ago. It would have been, well, we're just going to have to go without until the price gets better.
Definitely.
You know?
Yeah, definitely.
Or we're just going to have to go without because right now everything's dried up and we can't process anything. Yeah. Or we can't, you know?
Well, it's really interesting talking to you, and thank you so much for joining us on the show today.
Thank you very much.
Le temps passe, il y met. vole sur l'étang. Le ciel bas, rayé de pluie et d'ombre, pèse sur les champs sombres où rôde aussi le vent. Je suis seul depuis déjà longtemps. Je suis seul, je suis triste et j'attends. Vers l'oubli glisse des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps. Pourtant j'étais jeune et je valsais au bal de la princesse. Les hommes, les femmes et les rires frais tournaient autour de mon cœur. Mais mon cœur est mort en plein printemps. Il est là, tout au fond de l'étang. Dans le feu glissent des jours sans nombre. Le temps passe et il y met le temps.
C'était Pauline Julien, une légende de la chanson québécoise, avec « Le temps qui passe » de Boris Vian. Vous écoutez Portrait vivant, une émission de CIDI 99.1 FM et de l'École d'art de Sutton. L'entreprise a été rachetée par la famille Boulanger dans les années 40, qui développa en parallèle la station de ski Mont-Sutton. Denis Boulanger, résident de Sutton, est ici pour nous parler de ses souvenirs passés à la laiterie.
Bonjour, je m'appelle Denis Boulanger. J'ai grandi dans cette grande cour qui est la laiterie, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'habitais là, la petite maison avec ma famille, tout juste à côté de la laiterie. Et puis, je circulais la laiterie. C'était comme un grand passage. On passait de la maison à la laiterie. On continuait. J'ai appris l'anglais chez la ferme à côté, chez Dyer. On allait faire le train avec les vaches. C'est la ferme de l'autre côté de la rue. J'ai appris à conduire le tracteur chez la ferme La Rivière. Alors, tu sais, on a grandi autour de la laiterie. Alors, et les voisins passaient beaucoup de temps à la laiterie. Mes amis ont travaillé à la laiterie quand ils ont été plus âgés. Alors, on a vécu la laiterie de son départ aller jusqu'à sa fermeture, qui a eu un rôle dans la région. Alors, j'ai vécu ça là, de très, très près, comme enfant, apprendre à faire de la bicyclette dans la cour, à regarder les employés travailler dans la mécanique, dans tous les processus. Et ensuite, comme étudiant dans le travail d'été, comme travailleur avec mes amis qui avaient d'autres rôles à jouer dans la laiterie. Alors, on a grandi dans la laiterie et j'ai participé à la laiterie comme employé jusqu'à finir mon adolescence et finir l'université. Et ça n'a pas été longtemps après ça que la laiterie a fermé dans les années 80. Alors, c'est une entreprise familiale, mais très près du cœur. Mon grand-père avait acheté une brewery à Abercorn et ensuite il a acheté la laiterie qui était à Sutton, qui appartenait à M. Carr. Alors ça, c'était dans les années 40. Il y avait quand même 400 fermes laitières dans la région de Sutton et qui apportaient leur lait pour le traitement ici à la laiterie. Alors, il y avait beaucoup de voyages. Dans la jeunesse, on jouait dans la grande cour. J'ai appris à faire du vélo, tu sais, une petite pente, et puis j'ai appris à pédaler en descendant. On remontait à pied. Alors, on était dans la cour de la laiterie avec les camions qui circulaient, puis les journées de pluie, on passait notre temps à l'intérieur de la laiterie, puis je venais vivre voir mon père ici, mon grand-père qui travaillait au bureau.
Maintenant, c'est très vivant, mais d'une façon différente.
Ben, c'est ça. Là, ça a changé de vocation, mais je pense que un peu comme moi dans ma jeunesse, j'ai appris à jouer autour avec des équipements. On grimpait sur les toits, on jouait à la cachette, on jouait à la couraille. Plus âgé, étudiant, on aidait les employés, on venait travailler à la laiterie, on manipulait des sacs de poudre, des boîtes de beurre, chauffer la bouilloire. Tu sais, c'est là que j'ai appris un peu la mécanique. On regardait les employés travailler, on allait au garage, travaillait sur les camions. On pouvait répondre à notre curiosité tant qu'on voulait. Là. Et la rivière, ben, est en arrière. La rivière, c'était notre mère, si tu veux.
C'est des beaux souvenirs d'enfance.
Oui. J'allais à l'école avec des jeunes, puis des fois, à la fin de semaine, je les voyais, ils venaient avec leurs parents apporter le lait. Fait que là, tu sais, ça, c'était comme un nouveau mix, mais on a commencé à travailler très jeune. Il n'y avait pas de limite d'âge dans le temps, là. En tout cas, on l'a pas réalisé. Mais ça nous permettait de gagner des sous, puis de prendre de l'expérience, de voir un peu ce que nos parents faisaient. Fin d'adolescence, on prenait plus de responsabilités. Tu sais, il y avait une bouilloire où il fallait maintenir le feu pour faire bouillir l'eau, qui était l'énergie essentiellement pour plusieurs équipements. Alors, tu commençais à 6 heures le soir, tu finissais à 7 heures le matin. Ça, c'était comme des longues nuits à chauffer la bouilloire, mais aussi empocher la poudre. Fallait du travail de nuit. L'employé régulier travaillait de jour. Alors, nous, les étudiants ou la famille, ben on empochait ou faire la réception du lait. On conduisait les camions aussi, parce que des fois, il fallait charger un camion de poudre. Alors, pendant la nuit, on apprenait à conduire une vanne. Tu sais, c'est les premières expériences de toutes sortes. Les gens allaient du côté de Mansonville, Fredericksburg, Dunham, Iron. Il y avait peut-être 5-6 camions à lait qui ramassaient le lait en bidon. Et ça, c'était à tous les jours. Alors, il y avait 4-5, tu sais, il y a des camionneurs qui faisaient, on appelait ça des runs à lait, là. Ils faisaient 2 runs à lait par jour. Alors, quand c'était à proximité, ils partaient à 5 heures du matin, ramassaient le lait, venaient vider leur camion, retournaient pour faire une deuxième run. Alors, ça commençait, la réception du lait commençait à 8h30, puis ça finissait à 3 heures. Il y avait un grand territoire à aller chez les cultivateurs, jusqu'à temps que, essentiellement, agro-pur, ça commençait à, puis la cueillette du lait se faisait plus dans les bidons, c'est plutôt des citernes. Ben, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, les petites laiteries comme nous autres commençaient à disparaître. Ils disparaissaient puis ils se faisaient reprendre par agro-pur. Mais les cultivateurs aussi, là, tranquillement, ça devenait difficile à gérer. La relève était pas là. Alors, aujourd'hui, il reste une ferme laitière à Sutton.
Donc, de 480 à une.
Il y en a d'autres dans la région. Oui. Il y a des grosses fermes laitières là, qui sont automatisées, là, où les vaches vont se faire traire. C'est de l'équipement moderne. On parle de 200, 300, 400 vaches, là, pas de 10-15 vaches dans le temps. Là.
Mais donc, le rôle de la laiterie, ou certains disent de la crèmerie, c'est un rôle énorme pour la ville de Sutton. À cette époque-là, ça aurait été comme le cœur économique.
Oui, c'est ça. À Sutton, les emplois, il y avait 2 moulins assis. Il y avait la laiterie. Il y avait aussi une entreprise qui fabriquait des jouets en bois. Alors, sur la rue Maple, mais c'était vraiment les entreprises. Le reste, c'était des petits commerces, pharmacies, épiceries. Mais le cœur des emplois, c'était dans ces entreprises-là. La laiterie, c'était difficile, saisonnier. L'hiver, les vaches donnent pas beaucoup de lait. Alors, c'est pour ça, là, c'était le lien avec la station de ski. C'était un projet de diversification. Alors, les employés de la laiterie l'été, il y en a plusieurs. La laiterie fonctionnait l'hiver, mais au ralenti. Alors, ces employés-là, ils travaillaient dans la station de ski. Puis reprenait au printemps. Alors, il y avait un garage, mais ça faisait la mécanique pour les camions et puis tout l'équipement et la mécanique pour la station de ski. Alors, tu sais, ça aidait. Mais au début des années 80, la laiterie a fermé, alors tout a transféré en haut. Puis ici, c'était simplement les bureaux puis de l'entreposage du Mont-Sorin. Mais aussi, on louait des espaces. Puis il y a des gens qui avaient ouvert une ébénisterie dans un des locales. Et puis, la municipalité utilisait un des locales pour entreposer des anciens camions de pompiers. Alors, tu sais, c'est ce genre de choses-là. Ouais. Puis la cour extérieure était utilisée aussi pour de l'entreposage de différentes choses. Les personnes qui ont acheté Mont-Sorin n'ont pas acheté la laiterie. Alors, comme la laiterie avait pas de... C'était pas un commerce, là, c'était une bâtisse. Alors, il y avait seulement des dépenses. Alors, à un moment donné, on a dit, bon, on va vendre la laiterie, le bâtiment. Il y avait différents projets pour ces bâtiments-là. Et c'est l'École d'art qui fait l'acquisition.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette transformation-là?
Et au début, c'était bien plus facile à douter que de... T'sais, Anne-Marie, elle avait sa vision, mais on savait que le bâtiment, il fallait qu'il soit utilisé, mais tu dis, tu peux pas voir 25 élèves, tu sais, c'est un grand bâtiment, là. Et entretenir, tu sais, on sait comment ça coûtait entretenir cette bâtisse-là. Alors, tu sais, on a dit, un écart d'or, ben, tu pourras survivre ça, mais aujourd'hui, on voit là que ça a été bien aménagé. Aujourd'hui, c'est des enfants qui viennent de la ville, en grande partie, ils viennent passer une vacance ici. Tu sais, le bâtiment était intact dans son entièreté, mais est amélioré par l'école d'art. Alors, les jeunes, ils profitent de la même cour, mais au lieu de jouer dans des équipements, ben là, ils jouent avec des matériaux d'art pour apprendre et puis voir un peu ce que les autres font. Nous autres, c'était comme ça, là. Celui qui courait le plus vite, ben tu courais après, puis t'apprenais à courir plus vite. C'est plus une laiterie, mais c'est quand même un incubateur d'art. Et alors, tu sais, les gens qui venaient à la laiterie, dans le temps que c'était une laiterie, puis qui sont pas revenus ici depuis, et ils subissent un choc culturel quand ils rentrent à l'intérieur. Là, tu sais, c'est vraiment bien fait. Puis là, il y a différentes vocations. Là. C'est bien le fun de voir ça.
C'était vraiment un plaisir de parler avec vous puis entendre vos souvenirs, votre expérience à propos de ce lieu.
Merci pour l'accueil. Plaisir.
La vie plus lourde que montagne au large. La vie léger comme un plume tout ardeci, tu la lis à une autre vie, ta vie. Il y a des amours dans les villes, presque dans chaque maison, sous l'océan, il y a des îles et des pleurs sous les chansons, sous le filet, il y a des truites, sous la feuillée, des fruits. Mais moi, mon cœur qui l'habite, ces filles fleurs du pays, je l'aime tant que j'éclaterai comme foudre si j'appelais qu'elle s'amuse sans moi. Il y a des amours dans les villes, presque dans chaque maison, sous l'océan, il y a des îles et des pleurs sous les chansons.
C'était Félix Leclerc avec le classique La vie. Que faire d'un tel lieu comme la laiterie, riche en histoire mais vidé de son activité originelle? Pour de nombreuses villes, ce genre de patrimoine industriel finit par disparaître sous les coups de bulldozers, remplacé par des constructions modernes. Mais à Sutton, la laiterie se trouve une nouvelle vocation, grâce à une citoyenne qui tomba amoureuse du site.
C'était un coup de cœur majeur. J'ai parcouru les salles. Ça, c'était vraiment dans un état lamentable parce qu'il y avait de l'eau qui coulait. C'était un lieu d'entreposage vraiment très sale. Des véhicules, des vieilles machines. Le bord de la rivière était couvert de c'est comme un dépotoir à ciel ouvert. Là. Il y avait des monticules, des collines de débris. Les gens venaient brûler leurs pneus. Ça, c'était un déversoir. Puis c'était à l'abandon. Mais c'est ça, et c'est là où la vision est importante. Au-delà de tout ce, de l'état des lieux, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager, de découvrir des musées, des galeries, des foires d'art contemporain, de travailler avec des artistes, de visiter les studios. Donc pour moi, ce que j'ai vu, c'est j'ai pas vu l'état des lieux comme étant un frein au projet. Mm-hmm. J'ai au contraire vu la possibilité de prendre soin d'un lieu historique qui devait être revitalisé. Parce que l'ancienne crèmerie, c'est le cœur économique de Sutton. Mm-hmm. C'est le lieu où le Québec s'est développé à travers ce projet-là de crèmerie. Là. C'était incroyable. Les fermes environnantes avaient plus de vaches que d'être humain là, dans la région. C'était la production du lait à son apogée. Il y avait toute une économie qui tournait autour de cette production-là laitière, et la transformation du lait en beurre, en lait au chocolat, c'était vraiment un moteur économique pour Sutton parce qu'il y avait plusieurs emplois qui étaient générés par l'usine. Et c'est grâce à cette fortune-là qui a émergé là, de des produits laitiers Sutton, de l'ancienne crèmerie, grâce à une famille, la famille Boulanger. C'est grâce à ça qu'ils ont été capables d'acheter une montagne et d'avoir la vision de développer un lieu, une destination touristique pour les skieurs. Mm. Alors, c'est une famille qui a transformé le village vraiment de façon importante. Donc, de raser l'édifice, je crois qu'on aurait perdu notre mémoire collective. Et notre mémoire, elle doit être célébrée, elle doit être mise en valeur. Donc, j'ai le travail... Mis à part le projet d'école d'art, j'ai un amour pour le bâtiment qui est très grand. Je veux en prendre soin. Mm. Puis garder ses traces, garder ses cicatrices, garder tout ce que le temps, le travail du temps sur le bâtiment, ça tu peux pas le reproduire. C'est impossible. Donc on veut préserver les traces de l'histoire sur le bâtiment le plus possible, tout en offrant un lieu qui est sécuritaire et aménagé adéquatement pour recevoir les enfants et les artistes pour les ateliers de classe.
Ainsi naît l'idée de transformer cet espace en centre artistique. Aujourd'hui, la bâtisse résonne de nouveau, de discussions animées et de rires, mais ce ne sont plus des ouvriers et des producteurs qui s'y croisent, mais des artistes, des enfants, des visiteurs et passionnés de culture. Pendant la période de transition entre usine et centre d'art multidisciplinaire, l'artiste Vicky Tandy est venue faire une résidence de 4 mois. Elle est ici pour nous en parler.
Moi, je suis tellement inspirée par des espaces comme ça, comme performer.
Oui.
Alors, j'ai demandé à Anne-Marie, est-ce que je peux faire un spectacle, une performance dans cet espace comme c'était? Oui, elle m'a dit... Oui, mais est-ce que tu veux qu'on le nettoie avant? Elle said, non, touche pas. Alors, dans cette période-là, c'est incroyable parce que tous les grands espaces étaient, la lumière, c'était neon lights dans le plafond, et disgusting, you know,
oui.
Pour un spectacle. Alors moi, j'ai apporté toutes les lampes de ma maison, toutes.
Incroyable.
Et je les ai mis dans tous les espaces ici. Parce que c'est un spectacle de la soirée. Et la qualité, la qualité de l'environnement avec cette sorte de lumière, it was so different.
Oh,
c'était
ouais.
Pas du tout comme on attend
oui.
dans any space, ce mm-hmm. qui est public.
Mm-hmm.
Alors, j'ai mis des lampes sur les pneus, je l'ai mis par terre, mm-hmm. je l'ai mis... et même, on a utilisé les lumières d'une voiture qui était in storage, loin, couvert avec une couverture bleue. On a demandé si c'était possible de mettre les lumières et on a été donné la permission. Alors, c'était si bizarre d'avoir cette qualité de bleu distant et on est sorti de la noisseur, moi et mes deux musiciens, et on est arrivé dans le grand espace pour commencer le spectacle de danse et après on a nous déplacer dans le grand espace avec les grandes portes, avec les chaînes en wow. Et ça, j'ai illuminé avec les petits lumières de Noël blanc sur la terre, par terre. It was magical.
C'est incroyable. Magical. So et les jeux d'ombre, je peux imaginer, ça a dû créer
Et à cause que c'était COVID, les gens n'ont pas eu l'opportunité à ce point-là d'aller dans des spectacles vivants.
Mais oui.
Tout le monde a eu peur d'être ensemble.
Bien
Alors,
sûr.
Il y avait assez d'espace et ouais. tout le monde a apporté leur masque et it was very special.
C'est vraiment incroyable. Et puis, ça nous ramène vraiment à une époque de l'école d'art avant, en fait, cette
Absolument.
Manifestation. Maintenant,
oui.
c'est tout blanc, c'est tout beau, c'est
oui.
comme une galerie d'art.
That's right.
Et là, c'est vraiment un espace industriel.
Oh, oui.
C'est vraiment texturé.
Une partie de l'usine, quand c'était une creamery.
Mm-hmm.
Alors, les fermiers, les vaches, les granges, l'église locale, le village, le pain, j'ai mis tout... ces mots mélangés en français et anglais sur cette grande mur,
mm-hmm.
parce que pour moi, c'était ma entrée dans l'espace. Mais j'ai pensé, bon, à la fin, après ces 4 jours que j'ai fait ça, ou 5 jours, ils vont le laver, ils vont le nettoyer, ils vont
peinturer. Oui, parce que c'est de la craie, c'est ça, c'est éphémère, un côté éphémère.
I was told that was the next phase. So, c'était juste pour moi, cette expérience. Oui. Et quand Anne-Marie l'a vu, et les autres artistes l'ont vu, parce que je l'ai fait toujours pendant, en solitude, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont dit, ça va rester. Ça va rester. Alors, on l'a protégé avec plastique pour le nettoyage et la peinture après. Mais aussi, il y avait un coin de mur, un mur, une section de mur de ce qui était dans l'usine, que quand je l'ai vu, on m'a dit, ah, celle-là, ça c'est vraiment déjà une peinture. Alors, il faut qu'on la protège aussi. Alors, on a couvert une section de le mur avec plastique encore. Après, tout était nettoyé, tout était peinturé blanc. On a enlevé le plastique and you had these incredible works of art already there. Et c'est après ça que j'ai fait ma grand tableau de mon diptyque qui était basé sur les choses, les marques que j'ai vues par toute l'usine.
Avant même l'acquisition de l'ancienne crèmerie, il y avait une conversation avec les membres de la ville pour leur expliquer l'importance de changer l'usage des lieux. Donc, on passait d'un lieu industriel à un lieu commercial qui pouvait accueillir la communauté. Et pour expliquer le projet de l'école d'art, il y a eu un moment où il fallait absolument impliquer des architectes. Et ce sont eux qui ont été en mesure de reprendre mes mots et mes idées pour en faire un document qui permettait à la ville de comprendre où on s'en allait tout le monde là, avec ce projet. In situ, ce qui est absolument merveilleux, c'est que Stéphane Pratt a découvert l'école d'art par le biais de photographies que Dana Cooper lui a montrées. Pendant, c'est ça, de manière amicale, il y a une belle communauté d'amis entre Sutton et les architectes. Et quand il a vu les photos du camp d'art culinaire de Dana, il a réalisé qu'il y avait une école d'art à Sutton qui était en ébullition ou qui était en formation. Et il a décidé de m'écrire et m'annoncer qu'il était intéressé par le projet. Et j'ai été extrêmement honorée par ce message. Et j'ai donc travaillé avec In Situ pour l'élaboration du projet d'architecture. C'est un projet de revitalisation du patrimoine industriel. Donc, quand on parle de patrimoine, c'est sûr que ça exclut les femmes. Il va falloir peut-être réviser ce mot. Peut-être l'héritage industriel, tiens. Ce qu'on souhaite ici, c'est s'assurer que l'édifice conserve les traces du temps, les cicatrices, il y a beaucoup de trous, de craques, il y a une multitude de matériaux, du bois, du métal, du béton, et je pense que c'est important de ne pas dénaturer l'essence des lieux, et au contraire, se voir comme un relais de toute cette histoire qui a débuté un siècle auparavant. Donc, si on veut prendre soin du bâtiment, on ne peut pas le détruire pour le rebâtir. Il faut faire avec le lieu, avec sa façon de se construire qui est très curieuse parce que l'édifice s'est construit au fur et à mesure des besoins industriels. Et aujourd'hui, on regarde l'école d'art et c'est le même principe. Il faut qu'on transforme les lieux au fur et à mesure des besoins de l'école d'art. Donc, on est dans le même mouvement au niveau de l'architecture. In Situ a fait un travail extraordinaire de prendre soin des printemps de l'architecture pendant la saison où nous avions l'intention de revisiter l'histoire du bâtiment. Donc, ils ont travaillé avec Héritage Sutton à retracer l'histoire de la crèmerie pour ancrer le projet d'architecture dans son passé et pouvoir le propulser vers l'avenir dans toute sa force, mais vraiment qui émane de cette
de ce lieu où toute la communauté s'est réunie pour produire et transformer le lait, en fait. Et aujourd'hui, on le transforme en beau. Donc, ce lait devient beau à travers le travail de la création. Et on a vraiment besoin de l'appui de toute une communauté pour le réaliser, ce travail. Et in situ a l'expérience puisqu'ils ont transformé des anciens bâtiments. Quand on marchait à travers le bâtiment au départ, au moment de l'acquisition en 2019, les toits coulaient, il y avait beaucoup de poussière, il y avait des craques, il y avait des ouvertures, il y avait des portes où on voyait dehors. C'était vraiment fascinant de comprendre que je n'étais pas seule à voir le potentiel du lieu transformé en espace pour la création et pour la présentation des œuvres des artistes et pour la rencontre. C'est voir le bâtiment comme une immense sculpture. C'est comme si l'école d'art n'est pas juste un bâtiment, mais une sculpture faite de terre qu'on habille, c'est presque une œuvre de sculpture relationnelle, mais qui se traduit à travers ses murs, ses plafonds, ses ouvertures, ses portes. Puis, je vois aussi le bâtiment comme un lieu où il n'y a pas d'entrée officielle. On y entre comme on entre dans une forêt. Il n'y a pas une porte d'entrée. Il y en a autant qu'il y a d'individus. Et on souhaite conserver cette capacité-là du bâtiment à rester ouverte et accessible à tous facilement, sans que ce soit une forteresse fermée sur elle-même, mais plutôt un lieu ou un centre d'art qui est ouvert sur des sentiers, sur plusieurs, autant de portes qu'il y a d'espace. C'est ce qu'on souhaite. Et je crois que avec Stéphane et Annie et leur équipe, on sera en mesure d'envisager un futur pour le bâtiment. Thank you.
C'était Le vent l'emportera, interprété par François Couture, Sylvain Nou et Sophie-Marie Martel. Pour conclure notre émission au sujet de l'histoire de la laiterie transformée en centre d'art multidisciplinaire, l'École d'art de Sutton, on va rencontrer le président de Héritage Sutton.
Mon nom est Hubert Manceau, je suis président et trésorier de la société Héritage Sutton. On a collaboré avec l'École d'art sur deux projets, les deux projets étant reliés entre eux. Le premier aspect, c'était la réalisation d'un cahier spécial, d'un cahier d'histoire hors série sur les produits laitiers Sutton de 1945 à 1980, qui est une entreprise qui a été acquise par la famille Boulanger en 1945. Et bon, en 1980, l'entreprise a fermé ses portes. On se comprend que les entreprises dans le domaine laitier. Il y a eu énormément de consolidation à peu près dans tous les petites villes et les gros villages. Les laiteries ont de plus en plus été concentrées ou acquises ou vendues à des entreprises plus grosses. Ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est qu'Héritage Sutton, on a une mission qui comprend quelques volets. Et le volet d'origine, c'est la préservation de notre héritage, de notre patrimoine à Sutton. Et dans ce contexte-là, on reçoit des archives des vieilles familles de Sutton et des entreprises de Sutton d'autrefois. Dans le cas de la famille Boulanger, nous a confié ses archives. Alors, c'est le premier lien avec l'École d'art, c'est qu'on a hérité les archives de la famille Boulanger, de ces deux entreprises, d'abord la laiterie et ensuite le Mont Sutton. Notre rôle, c'est pas juste de recueillir et de archiver, cataloguer ce que l'on nous confie, c'est également de diffuser cette information-là, de la faire connaître et d'intéresser les gens à l'histoire de Sutton. À ce titre-là, on publie depuis le début des années 2000 un cahier d'histoire d'une cinquantaine de pages. On publie ce cahier-là deux fois par année. Et en 2022, après la vente de la compagnie Mont Sutton Incorporée à de nouveaux propriétaires, c'est là que la famille Boulanger a décidé de nous confier ses archives. Et on a eu l'idée de souligner cet événement-là avec deux choses. Un, la publication d'un cahier spécial. Et deux, l'organisation d'un événement qu'on appelle Mémoire en fête. Note. L'événement Mémoire en fête est une autre façon de diffuser l'information sur notre héritage. Et ce qu'on essaie de faire quand on organise un tel événement, c'est d'attirer les Sutoniens autour d'un souvenir et de leur demander de participer à l'identification des souvenirs. Ce que l'on a fait pour l'événement Mémoire en fête en 2022, c'est un montage photographique des arts de l'usine de produits laitiers Sutton, mais également des employés de l'époque. Donc, un paquet de souvenirs. On a fait un montage à l'École d'art. Les gens ont été invités pendant une fin de semaine à venir voir ça. Et c'était un grand succès. Ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de gens qui avaient travaillé à l'entreprise se retrouvaient sur les photos, mais en même temps se reconnaissaient des gens que nous, on n'avait pas pu identifier. Et également, amenaient leurs enfants et retrouvaient des amis. Et donc, ça a permis, si vous voulez, de faire connaître l'histoire de cette entreprise, mais en même temps, de rappeler beaucoup de souvenirs à des gens qui, pour qui, finalement, la laiterie Sutton a été une partie de leur vie. Cet automne, Anne-Marie et moi, on s'est rencontrés et on parlait d'autres projets possibles de collaboration ensemble. On avait d'abord discuté ensemble d'un projet sur l'histoire du ski. Et ce projet-là va donner lieu à la production d'un documentaire sur l'histoire du ski à Sutton. On couvre plus large que l'histoire de Mont Sutton Incorporé. C'est sûr que ça va être le clou du spectacle ou peut-être l'élément principal. Mais l'histoire du ski à Sutton commence fin des années 1890 avec les premiers jeunes qui skient sur des planches faites à partir de vieux barils.
Wow.
Alors, on va commencer l'histoire là. Il y a eu des clubs de ski à Sutton dès la Première Guerre mondiale, un deuxième club par la suite. Il y a eu une première remontée mécanique quelque part dans la campagne autour de Sutton. On a eu les visites de Jack Rabbit, un personnage, en fait, qui a introduit le ski de fond au Québec, qui est venu visiter. Donc, on a beaucoup de choses à dire sur l'histoire du ski. Et ça, ça va donner la production d'un documentaire qu'on compte diffuser et faire un lancement à l'École d'art en 2026. Notre Autre projet sur lequel on travaille, mais là on travaille vraiment directement avec l'École d'art. Ça nous est venu d'une idée qu'Anne-Marie et moi avons eue lors d'une rencontre. Anne-Marie, avec ses 30 jours à l'École d'art, on fait des ateliers de peinture, des ateliers de dessin. Et en jasant tous les deux, on s'est dit que ce serait le fun si un objet d'atelier pourrait être les maisons des bâtiments patrimoniaux de Sutton. On a collaboré à la réalisation de l'inventaire des bâtiments patrimoniaux de Sutton avec le ministère des Affaires culturelles et avec la firme Patriarche qui a fait cet inventaire-là pour la ville de Sutton. Si on croise les deux inventaires, on a au moins plus d'une centaine de bâtiments patrimoniaux dans le canton et la ville de Sutton. Et on s'est dit, pourquoi on ne choisirait pas un certain nombre de maisons patrimoniales et qu'on ne demanderait pas à la propriétaire s'il pourrait accepter pour une demi-journée, qu'il y a un temps de jour, donc on prenne une dizaine des jeunes, pour organiser un atelier de peinture de leur propriété sur leur propriété. Ce qui permettrait de mettre des jeunes en contact avec des aînés et en même temps de diffuser d'une autre façon des souvenirs sur ces maisons patrimoniales, souvenirs qui font l'objet d'un montage à l'École d'art par la suite et d'un vernissage. Donc, ce qu'on cherche à faire avec un tel événement, du côté d'Héritage Sutton, c'est de mieux nous faire connaître, de faire connaître notre patrimoine et en même temps d'intéresser les jeunes à l'histoire et au patrimoine. C'est un énorme défi d'intéresser les jeunes à l'histoire. On considère que c'est très important. Idéalement, on aimerait beaucoup que ce soit les propriétaires qui parlent de leur maison avec les jeunes. Bien sûr, l'essentiel, à partir du moment où on parle des cas, c'est le rôle de l'École d'art, d'en connaître les jeunes avec un artiste. Et puis, ce que l'on veut assurer, c'est la partie historique. Oui. Sur le plan de diffusion, bon, ben, l'École d'art, ça fait partie de sa pratique. Les jeunes, quand ils font un camp de jour, ils produisent leurs objets artistiques. Dans ce cas-ci, on va parler de peinture. Ils vont produire leurs tableaux et à la dernière journée du camp, ils font un montage. Et le montage fait l'objet d'un vernissage. Et à l'automne, il y a des journées sur le patrimoine. Et lors de ces deux journées sur le patrimoine, les œuvres qui ont été produites dans l'ensemble des camps de jour de l'École d'art à l'été font l'objet d'une exposition.
Merci beaucoup, Monsieur Manceau. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, je sens le silence qui m'envahit, mais j'écris une chanson contre la folie pour des gens qui se battent dans la rue pour un petit endroit, pour un petit endroit où ont grandi quelques personnages qui sont devenus aujourd'hui la raison qu'on se tue à se prendre pour ennemi. Et c'est ainsi qu'on s'habitue à ce que tout soit détruit dans ce petit endroit, dans ce petit endroit.
Et je repense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout, c'est ce qu'il reste.
Population entière qui subit ce que ces dirigeants sans tête ont choisi pour régler leurs conflits et gonfler leur égo infini dans ce petit endroit, dans ce petit endroit.
Et je repense à vous, à ceux qui restent debout, ensemble, plus fort que tout.
m'en pris avec ça pour la vie. Mais j'écris une chanson contre la folie, pour des gens qui se battent dans la rue.
Ainsi, la laiterie Daisy, construite en 1850, est un lieu de transition entre le passé et l'avenir. Les souvenirs de l'industrie laitière ont été préservés et rencontrent l'effervescence de la création contemporaine. La laiterie incarne la capacité d'une communauté à réinventer son patrimoine sans en effacer les traces, offrant un espace où la mémoire et l'innovation cohabitent harmonieusement. Je vous laisse avec cette interprétation de Peace Train par The Bros Landeff. Merci et à bientôt pour la prochaine épisode de Portrait Vivant.
Good things to come, and I believe it could be something good has begun. And I've been smiling lately, dreaming about the world as one.
And I believe it could be. Someday it's gonna come. I'm on the edge of darkness. There rides a beast train. Beast train, take this country. Take me home again. I've been smiling lately, thinking about the good things to come. And I believe it could be. Something good has begun. Beast train getting louder. Light on the beast train. Go get your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. So come and join the devil. It's not so far from you. Well, it's getting nearer. It'll all come true. Now peace train getting louder. Light on the peace train.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.